Pour nous rejoindre, ça n'a pas changé pour les habitués. Puis pour les petits nouveaux, ben bonjour, c'est Gravel dans le retour. On est là jusqu'à 18h. Par texto, c'est le 418-971-1021. Ça se rend directement en studio. Même chose pour le téléphone. Un peu plus de patience, toutefois, 780-1021. Dans le 418, on est partout sur vos réseaux sociaux. Et on est actif et proactif. Si vous avez quelque chose à dire, ça peut être de la circule, ça peut être des sujets sur lesquels vous voulez qu'on jase, qu'on rebondisse ensemble. Go, go, go! 418-971-1021. Comment ça va dans le trafic, Audrey?
Il y a encore beaucoup, beaucoup de ralentissements. Peut-être commencer par la capitale direction Est entre Henri IV et Laurentienne. C'est loin d'être terminé. Direction Ouest, c'est surtout à la hauteur de Laurentienne que ça se passe. Robert Bourassa, direction Nord, c'est entre Charest et la capitale. Charest Est, entre Henri IV et Robert Bourassa, il y a des problèmes sur Henri IV Sud, principalement. À partir de la capitale, le ralentissement se fait sentir jusqu'au pont. Duplessis Sud, c'est de chemin Sainte-Foy au pont La Porte. Quelques ralentissements sur la route de Fossambeau aussi, entre route des Érables et de la Jacques-Cartier. Pour ce qui est de la Rive-Sud, je ne sais pas ce qui se passe cet après-midi, là, mais ça roule. C'est rare, mais on va le prendre. Quoi que ce soit, 88-971-1021 texto.
C'est une histoire qui a frappé notre imaginaire la semaine dernière quand Judith Demeul, journaliste judiciaire pour le journal Le Soleil, est venue nous raconter ce parcours-là d'une femme qui, d'abord, a perdu le procès au criminel pour ensuite réussir à condamner au civil son agresseur, un beau-père qui a dû verser 100 000 $ à son ancienne belle-fille qui a dû subir ses attouchements sexuels à plusieurs reprises. L'homme avait été acquitté au terme d'un procès criminel. La dame a été considérée comme une menteuse pendant près de 30 ans. La femme en question, Mélanie, a aujourd'hui 45 ans et elle disait se sentir libérée lorsqu'elle a parlé à Judith du journal Le Soleil. Comment on se sent au terme d'un parcours comme celui-là où tu vis un sentiment d'injustice pendant tellement longtemps? Qu'est-ce qui te pousse à continuer de cette façon-là? Il y a comme plein de questions à poser.
Il y a tellement de victimes qui abandonnent rapidement aux criminels parce que c'est dur, ta crédibilité en prend un coup.
Et après tout ce temps-là, c'est-tu un message positif ou négatif qu'on lance à quelqu'un qui vit la même chose puis qui se demande « je m'enligne-tu dans un parcours comme celui-là? » On va essayer de poser toutes nos questions parce que Mélanie est en studio avec nous autres. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va bien. En passant, Mélanie est drôlement bien entourée. Je pense que dans tout ce parcours-là, ça aide d'avoir un entourage qui donne un coup de main. Son avocate est là aujourd'hui, son conjoint est là aussi.
Oui.
Ça donne une... Est-ce que quelqu'un qui, dans les mêmes circonstances, est seul pour le parcours, as-tu l'impression que tu passes à travers?
Et c'est difficile. Moi, j'avais vraiment ma famille autour de moi, ma sœur, mes tantes. J'avais vraiment un beau tissu familial autour de moi, puis ça, puis mon mari. Ça a vraiment fait une différence pour moi parce que on vit beaucoup d'émotions puis beaucoup de peur surtout parce qu'on est sûr de rien. Puis tu sais, comme quand j'ai déposé ma plainte au criminel.
Vous aviez quel âge?
39.
OK.
39. Fait que quand j'ai déposé ma plainte au criminel puis j'ai rencontré la procureure de la Couronne, elle était comme pas certaine de mes chances de succès parce que, veux pas, moi, ça fait 30 ans de cette histoire-là. Fait que c'est considéré comme un cas historique, j'imagine. C'est comme ça, vous appelez ça, oui. Puis c'est ça, mais elle m'a quand même donné l'opportunité de raconter mon histoire parce que j'avais besoin de parler.
Pourquoi vous avez attendu si longtemps avant de déposer la plainte en tant que telle?
C'est une excellente question. C'est parce que moi, c'est arrivé à la fin de mon adolescence. J'avais environ 16 ans. Puis je vivais plein de doutes. Je ne comprenais pas nécessairement que c'était des actes incestueux qui avaient eu lieu sur moi, que j'avais vécu des agressions sexuelles. Puis, veux pas, c'était à l'intérieur de ma famille. Puis, tu sais, le temps de réaliser ce que j'avais vécu, je savais que c'était mal, mais je ne savais pas que je pouvais faire des démarches avec ça. Je n'étais pas consciente de la gravité que c'était criminel à ce moment-là encore.
Comment on le réalise? C'est-tu avec de la thérapie? C'est-tu avec des confidences? C'est quoi le chemin pour se rendre là?
Ben moi, en fait, c'était plutôt des attouchements sexuels, OK? Mm-hmm. Puis, veux pas, vous savez, là, moi, là, j'ai 45 ans, c'est arrivé dans les années 90, tu sais, toute la culture du viol, tu sais, tout le discours derrière ça que, tu sais, banalisait, quand j'essayais d'en parler, c'était toujours banalisé, tu sais, t'as pas été violée, fait que, tu sais, ça a pas de valeur, ton histoire, fait que, puis aussi...
Vu que c'était pas une relation sexuelle complète,
exactement.
C'est comme si on voyait ça de manière moindre.
Exactement, puis j'ai pas été violentée, j'ai pas été battue, mais, tu sais, toutes ces fait sans que je sois capable de consentir. J'avais zéro consentement par rapport à ces actes-là parce que, veux pas, c'était un homme que je voyais comme mon père. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'avais une relation avec lui, j'avais bâti une confiance, une amitié. Puis, il a vraiment profité de ma vulnérabilité parce que moi, à ce moment-là, mon père, j'avais pas de contact avec, mes parents sont divorcés. Fait que j'ai une enfant quand même vulnérable. J'avais soif d'amour. Moi, j'avais vraiment soif d'être aimée. Puis, tu sais, j'avais de l'attention de sa part, puis j'étais donc bien reconnaissante, là, tu sais.
Comment ça se passe aux criminels?
J'ai eu une méchante varlope.
Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça parce que c'est comme ça que Judith nous l'a mis en place aussi quand elle est venue raconter l'histoire la semaine passée.
C'est dur à imaginer, on dirait, pour nous qui ne passent pas à travers ce processus-là.
Oui.
Bien, comme je vous ai dit, tout d'abord, la procureure a vraiment été gentille. Elle m'a donné de l'espace pour raconter mon histoire parce que moi, il faut que vous sachiez que j'en parlais pas du tout. Mm-hmm. Tu sais, jusqu'à dernièrement, moi, c'est une histoire qui était cachée, secrète quand même. Là. Fait que là, je m'exprime plus, c'est nouveau pour moi. Mais à ce moment-là, excuse-moi, j'ai oublié ta question.
Comment
ça se passe au criminel? Ben c'est ça, tu sais, c'est sûr que j'ai commencé par rencontrer l'enquêteur qui m'a amené voir la procureure. Puis ensuite de ça, tu sais, malheureusement, tu sais, oui, il y avait l'accompagnement avec la CAVAC, mais c'était franchement pas suffisant, tu sais. Pour vrai, moi, j'avais pas accès à ma déposition, puis j'aurais dû l'avoir. Puis, tu sais, il faut se dire aussi que l'accusé, lui, avait accès à tous mes documents, tout ce que j'avais écrit, fait qu'il était prêt, il savait qu'est-ce que j'allais dire. Mm-hmm. Fait que c'est bien préparé.
Dans le fond, vous ne l'avez pas joué comme une game d'échecs ou comme un procès que vous deviez gagner. Il y a quelque part une certaine naïveté de dire « j'ai une histoire à raconter qui m'est arrivée, puis en racontant mon histoire, ça va faire en sorte que... il va y avoir une sentence, puis après ça, je vais pouvoir continuer à me bâtir ou à me rebâtir. »
Exactement. Ce que j'ai dit au juge Maxime Roy, justement, à la Cour civile, c'est que moi, quand je me suis embarquée dans le parcours criminel, j'étais allée vraiment naïvement. Là, quand je repense, parce que là, tu sais, j'ai fait des études en criminaux, j'ai mon parcours que j'ai vécu comme victime dans le système. Mais tu sais, moi, j'étais allée là de façon tellement naïve, j'ai dit « Hey, je m'en vais raconter la vérité, je m'en vais raconter mon histoire. Qu'est-ce qui peut m'arriver de mal? »
Quand le verdict tombe, oui, puis qu'on dit que votre témoignage n'est pas crédible,
oui,
comment est-ce qu'on se sent?
Sur le coup, j'avais encore de l'espoir. Je me disais, ah, la procureure va sûrement trouver une erreur de droit, va sûrement pouvoir aller en appel, ça n'a aucun sens. Ce qui s'est passé au criminel, j'étais comme, ben voyons donc, c'est impossible, tu sais. Puis là, quand j'ai reparlé après à la dame de la CAVAC puis de la procureure qui m'ont dit, non, on n'ira pas plus loin avec ça, c'est terminé. Je vais vous dire que ça m'a vraiment fait mal à un point que j'ai eu besoin de me retirer. Puis, tu sais, là, quand que tu vas dans la douleur tellement profonde que tu dis « Oh, ça pourrait fissurer, là, ça pourrait craquer, là, ça peut casser. » Puis là, pour vrai, je sais pas si vous êtes croyant, mais moi, ça a été là, une source de courage pour moi. J'ai prié, là, puis j'ai crié à l'aide en haut, là, j'ai dit... Dieu, là, faut que tu fasses de quoi, aide-moi, là. Ça marche plus, là. Puis, j'ai comme eu... Hey, j'ai vu aller les victimes avec Gilbert Ozon.
Oui.
Moi, c'était nouveau, là. Ça faisait peut-être 1 an, 6 mois que le délai de prescription civile avait été levé pour, justement, pouvoir faire des démarches au civil. C'était nouveau, là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
C'est pour ça que mon jugement, c'est un peu une pépite, là. Mm-hmm. Parce que on vient créer quelque chose de nouveau dans le droit, là. On crée une nouvelle direction, une nouvelle base. Puis c'est ça qui est extraordinaire.
Est-ce que après le verdict de non-culpabilité au criminel, est-ce qu'il y a des gens qui croyaient à ton histoire, qui ont arrêté d'y croire? Qui ont remis en question ce que tu avais raconté ou c'est resté uni autour de toi, ça a-tu...
Non, heureusement, c'est une bonne question ça aussi, mais je pense que ça, cette fissure-là, c'était déjà faite avant, quand j'ai dénoncé.
Je viens de passer du tu au vous, hein. En passant, on se connaît déjà mieux. Oui, ça va déjà mieux, je trouve.
C'est parfait.
C'est vrai, j'ai commencé dans le vous, je suis rendu au-dessus.
C'est parfait.
Ouais. Mais non, je me suis toujours posé la question parce que des fois, il y a des gens qui peuvent être très solidaires. Puis à partir du moment où il y a un jugement, mais là, tu te dis, oh, là, as-tu tout inventé ça pour vrai? Y a-tu...
Oui, je comprends. Puis non, mais ça, c'est, je te dis, cette division-là, c'est mm-hmm. faite déjà au moment que moi, j'ai dénoncé.
À partir de ce moment-là?
Oui. OK. Il faut que je vous spécifie. Je pense que pour moi, pour mon histoire, c'est vraiment important de le dire. C'est que moi, quand il a fait ces gestes-là sur moi, il est arrivé un événement qui a fait en sorte que là, j'ai comme eu vraiment peur de lui. Puis je me suis mis à m'enfermer dans ma chambre. J'étais en secondaire 5, puis je m'en allais au cégep. Puis j'ai dit, si je tiens bon, si je tiens ça secret, puis que je fais juste me cacher dans ma chambre, puis qu'il n'y a pas de contact avec moi, je vais être en sécurité. Fait que je vais garder ça pour moi, je garde ça secret, puis il me reste ça un an chez nous, puis je vais être correct après. Sauf qu'avant que je quitte pour le cégep, je l'ai vu recommencer le même scénario, le même pattern avec ma petite sœur. Oh. Puis là, j'ai comme fait, en le voyant faire, là, j'ai dit, là, ma fille, là, tu t'en vas, là. Tu seras pas là pour voir ce qui se passe. Tu saurais pas ce qu'il fait à ma sœur. Puis là, j'ai comme fait, je vais prendre mon courage à deux mains. Ça va être difficile. Je vais être pointée du doigt. Je vais me faire... C'est sûr qu'il va nier. C'est sûr que je vais me faire traiter de menteuse. Il va tout faire pour me salir. Je le sais. Mais au moins, je vais lui donner une bonne douche froide puis il va laisser ma sœur tranquille.
Mélanie, avec la journaliste Judith Demeul la semaine passée, elle a vraiment fait la distinction entre les deux fardeaux de la preuve, mm-hmm. le criminel versus le civil, qui a quand même une différence marquante entre les deux. Dans un procès criminel, c'est hors de tout doute raisonnable, puis la norme de preuve attendue lors d'un procès en responsabilité civile, c'est la prépondérance de la preuve. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, est-ce que... rendu au round 2, tu avais l'impression d'être mieux préparé, d'être même, d'avoir appris à la dure, puis de savoir un peu plus comment tu allais t'enligner, puis comment allait s'enligner cette deuxième bataille-là?
Ben en fait, c'est sûr, ça fait une différence parce que là, c'est nous qui payons mon avocate. Mm-hmm. Mm-hmm. Fait qu'elle m'a vraiment donné du temps, elle m'a bien expliqué les choses. J'ai relu ce qui s'était passé au criminel. La première fois, j'avais accès à des documents que c'était pas, ça n'avait pas été comme ça pour le criminel. Au civil, mm-hmm. c'est vraiment une approche différente. Puis aussi, vu qu'on était dans les dommages, mon mari pouvait venir témoigner des dommages qu'il avait vus à travers moi. Ça donnait quand même du poids à ce que je racontais. Puis j'avais des témoins au civil, puis j'en avais pas. Au criminel. Fait que ça l'a vraiment joué, là. Tu sais, pour la prépondérance de la preuve, là, ça a vraiment joué à ma faveur.
Est-ce qu'on joue, parce que j'ai eu la chance ou la malchance d'en voir quelques-uns des procès au palais de justice, puis là, j'ai vu que je pouvais pas couvrir ça de façon quotidienne, parce que moi, voir des victimes d'agression ou des victimes d'attouchement se faire brasser par des avocats qui donnent un show... Juste comme spectateur, j'ai pas les nerfs assez solides pour ça. C'est vraiment pas une expérience que j'ai aimée en tant qu'humain. Puis bravo à Judith puis aux autres qui le font. Quand on se ramasse sur le hot seat avec l'avocat, on va jouer, on va jouer dans le personnel. On va essayer de décrédibiliser d'un paquet de façons qu'on trouve dégueulasses dans une certaine mesure. Est-ce que tu as senti ce sentiment-là?
C'est sûr que, tu sais, moi, j'embarquais dans quelque chose où je devais être totalement transparente. J'ai tout raconté, mes difficultés. Je me suis mis à nu devant des gens que je ne connaissais pas. Puis des
Ce
gens
qui ne doit pas être évident. Hein?
Non. Puis tu sais, que dans ces gens-là, il y a ton agresseur qui est assis en face de toi puis qui te méprise. Puis il y a ces avocats qui sont là pour te détruire, là, pour te briser, puis réutiliser tout ce que tu dis à ton désavantage. Mmh. Ben oui. Mmh. Tu sais, tout ce que je disais pouvait leur servir contre moi, finalement. Mmh.
Ça leur donnait des armes.
Tout à fait. Mmh.
Pourquoi on le fait à ce moment-là, Mélanie? Parce que j'ai l'impression que c'est une question qu'il y a beaucoup de victimes qui se posent, se disant que ça va tellement être un long processus. Ça vaut-tu vraiment la peine? C'est-tu plus difficile, au final, tu sais, que de garder ça pour soi?
Ah non, savez-vous quoi? C'est d'en parler déjà là, de le dire, ce qu'on a vécu, c'est un premier pas vers la guérison. Parce que souvent, ces choses-là, on les cache. Ça devient, tu sais, le mal qu'on te fait, là. Moi, je me voyais comme sale, puis ça devient identitaire. Pour moi, j'avais pas de valeur. Puis j'ai traîné ça pendant 30 ans, à me regarder comme étant pas belle, sale, brisée. Puis tu sais...
Au-delà du résultat, juste le fait de le dire oui. puis de le pitcher dans le réel,
oui.
ça a un effet positif.
Tout à fait. Puis tu sais, c'est un parcours, c'est un processus. Il y a 5 ans, c'est pas drôle, ça fait déjà 5 ans, je me sentais pas comme ça. Là. Mm-hmm. T'sais, j'étais comme, j'avais un doute. Hey, j'encouragerais-tu, j'y ai pensé, j'encouragerais-tu quelqu'un d'autre à faire ça, d'aller au criminel, porter plainte? Puis j'étais, hey, je suis pas certaine, ça m'a tellement
connaissant l'issue,
fait
là.
Mal.
Ouais.
Mais tu sais, moi, là, le fait de perdre, là, ça a été un point tournant dans ma vie parce que j'ai dit, ça m'a donné le feu. Pour vrai, j'ai comme fait, hey, je comprends comment le système fonctionne. Je comprends comment les avocats de la défense fonctionnent. Je vais retourner à l'école. Je vais aller me former. J'étais allée en travail social, en criminaux. Là, j'étais à la maîtrise en criminaux. Moi, je voulais aller travailler pour la CAVAC pour accompagner les femmes puis les victimes devant le tribunal. Je savais comment ça marchait. Puis j'étais tellement en feu. Là.
Ça a changé ta vie bout pour bout.
Ah, tout à fait. Je suis devenue genre... j'avais une cause. Je tenais une cause, tu sais. Je me disais, c'est pas vrai que... Qu'est-ce que moi, je peux faire comme petite Mélanie, tu sais, comme différence, parce que moi, je suis pas une politicienne, j'ai aucun pouvoir pour légiférer, je suis juste une petite citoyenne, mais je peux aller sur le terrain, par exemple, puis je peux aider une petite personne à la fois, moi, comme petite personne, tu sais.
Est-ce que la victoire au civil efface la défaite au criminel? Est-ce qu'on reste un peu amer de toute l'expérience? Comment... À la fin du parcours, là, à la fin de tout ça, là, comment on se sent par rapport au système de justice?
Bien, je te dirais que pas avoir continué au civil, je l'aurais vraiment regretté. Parce qu'à ce moment-là, tu sais, si j'avais arrêté au criminel, ouais. j'aurais resté vraiment avec un sentiment d'injustice vraiment fort. Puis tu sais...
Ça aurait été dur de passer par-dessus ça.
Hey boy!
Ouais.
Hey boy!
Continuer la vie de façon normale, puis...
Non, j'avais pas le choix pour laver mon honneur. Parce que, tu sais, c'est ma dignité en tant que personne qui était atteinte, là. Puis tu sais, j'ai dit, OK, bon... C'est quoi mes options? Puis c'est le civil, ben je vais y aller all-in, puis je vais me battre de la même façon que je l'ai faite au criminel. Puis tu sais, je suis tellement reconnaissante d'avoir fait ce parcours-là, même si ça a été vraiment tough. Là. J'ai mangé mes bas. Là.
Écoute, moi, je suis quelqu'un, mettons que je suis quelqu'un de ton entourage, puis que tu es une personne que j'aime beaucoup, j'aurais peut-être essayé de te convaincre d'arrêter. Je sais pas s'il y en a qui ont fait cette démarche-là avec toi, de dire, écoute, arrête de briser ta vie avec cette histoire-là, puis délaisse la justice, puis on va se concentrer, on va faire de la thérapie, on va faire ci, on va faire ça. Là, la justice, ça t'a fait mal. On retournera pas se faire mal une deuxième fois. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te décourager, puis que ça partait d'une bonne place, là, comprends-moi bien? Là?
Mm-hmm. Non, pour vrai, personne n'a fait ça autour de moi, puis c'est même moi avec Élodie. On était...
Ton avocate?
Oui, parce que, tu sais, à un moment donné, ils ont fait témoigner ma sœur au civil. Puis là, c'était tellement tough de la voir se faire contre-interroger. J'ai regardé Élodie, parce que là, c'était ma tante. Après, Élodie, j'étais pas capable de voir ma sœur se faire barouetter de même. J'ai comme fait, Élodie, on arrête, on va pas chercher ma tante. C'est assez, ça suffit. J'en ai assez, là. Là, elle m'a regardé, elle a dit non. Elle savait la capacité de ma tante à être capable de témoigner. Puis une chance qu'elle a été là, parce que c'est moi qui voulais plus amener. J'ai qu'à fait, mais dans quoi c'est? J'ai embarqué ma famille, moi, tu sais. J'ai dit, j'ai une maudite tête de cochon, là, tu sais. Mais c'est ça, fait que finalement, non, les gens autour de moi m'ont toujours encouragée, m'ont toujours poussée, puis j'ai tellement eu d'écoute, puis d'amour, puis tu sais, pour vrai... Tu sais, j'aurais pas fait ça toute seule.
Est-ce que tu restes impliquée dans ce monde-là maintenant que toi, tes affaires sont réglées? Parce que ça, c'est l'autre affaire, tu sais. À un moment donné, tu te dis, bon, ben moi, j'ai mérité mon bout de vie puis bonne chance pour la suite des choses. Mais là, toi, t'as vraiment fait, écoute, une réorientation de vie qui est quand même assez importante, là.
Ben en fait, moi, je reste encore en contact puis encore, ben tu sais, c'est sûr que je travaille pour un organisme communautaire qui est directement au centre-ville. Puis, tu sais, nos bénéficiaires, ben c'est des gens qui sont en situation d'itinérance, des gens qui sont vraiment vulnérables.
Du monde magané.
Puis, j'ai des gens qui ont des gros problèmes de santé mentale, le conso. Puis, tu sais, moi, je m'occupe autant de la star des gens qui sortent de détention que des personnes qui ont été victimisées, là, tu sais.
Avec les deux côtés.
Oui, les personnes qui ont des parcours judiciaires d'un côté comme de l'autre, là. Tu sais, c'est vraiment extraordinaire, là. Je me sens vraiment privilégiée d'être avec ces gens-là. Sur le terrain, tu sais, j'ai l'impression de redonner un peu, puis tu sais...
Quelqu'un qui a pas ton vécu, peux pas amener ça aux personnes qui passent un moment difficile ou qui ont vécu quelque chose de similaire?
Tu sais, j'ai beaucoup de compassion parce que, tu sais, moi, là, à cause de la situation que j'ai vécue, là, je me suis retrouvée un été, là, en situation où j'étais sans domicile. Je me suis, tu sais, heureusement pour moi, j'étais à Cabaneau, j'étais pas ici, à Saint-Roch, à me retrouver sur un banc de parc, là. Je pense pas que j'aurais eu une aussi belle fin que si j'étais à Cabaneau, tu sais. J'ai réussi à avoir de l'aide puis de vivre, squatter chez un de mes amis.
Ça a descendu jusque-là, là.
Oui, oui, oui. J'ai été obligée de quitter, là. Tu sais, ça a vraiment brassé, là. J'ai vraiment vécu beaucoup de violence. Là. Puis, tu sais, le fait que maintenant, je travaille avec des gens qui sont eux-mêmes en situation d'itinérance, je sais que la ligne est mince. On réalise pas à quel point, des fois, toute ta vie, comment peut basculer. Puis, tu sais, je regarde ma vie aujourd'hui, puis je suis reconnaissante de ce que j'ai, tu sais, parce que c'est fragile.
Hey Mélanie, je salue ton courage. Bravo pour la ténacité. Bravo pour le parcours. Bravo pour le message aussi. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de se faire rassurer par rapport à un processus comme celui-là, même après une défaite où tu peux avoir de l'humiliation, tu peux avoir des gens qui s'éloignent, puis ainsi de suite. Le fait que tu aies décidé de perdurer dans ton parcours, puis non seulement perdurer, mais aussi, écoute, aller te chercher peut-être les outils qui te manquaient, la formation qui te manquait pour te sentir plus à l'aise là-dedans. Et maintenant, d'être capable d'aider des gens qui ont déjà senti le même désespoir que toi. Je trouve ça exceptionnel. L'importance de l'entourage, j'imagine, ça vient prendre une place aussi dans un parcours comme celui-là. Là. C'est pas comme de tout faire ça tout seul.
Ah non, c'est tellement gros, tu sais, puis c'est ça, tu sais. C'est sûr que ça prend du support, puis tu sais, des fois c'est des amis, des fois c'est la famille, tu sais, puis c'est ça, ça se fait pas tout seul, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Je savais que ton conjoint était un héros, ça je le savais déjà. On se parlera de ça une autre fois. Mais toi aussi, je pense qu'à quelque part, tu as un parcours tout à fait héroïque. Vous êtes des gens extraordinaires. Puis je suis content que l'histoire se termine bien, puis que ce bien-là puisse aider d'autres personnes. Juste d'être venu jaser, je pense, là, cette conversation-là qu'on vient d'avoir, ça peut peut-être donner un petit coup, une petite poussée pour des gens qui gardent des secrets comme ça trop longtemps puis qui ont peur du jugement, qui ont peur d'éclater une famille.
Qui ont peur du système.
Qui ont peur du système, effectivement. Je pense qu'il y a quelque chose d'important dans ce témoignage-là. Merci, Mélanie.
Merci à vous.
Il est 17h06, 418-971-1021 pour nous rejoindre, ou le 418-780-1021. On revient. Grazie.